Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Bac FM 106.1 dans la rubrique Délivrez-nous. Et aujourd'hui, avec mon homonyme Antoine et Lily, dans le cadre du prix Lyons Club, nous recevons Patrick Guichet. Bonjour Patrick Guichet.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Bac FM. Vous êtes écrivain, mais avant ça, vous avez été professeur de lettres et vous êtes maintenant à la retraite. Vous avez entre autres écrit Mémoire morte qui concourt au prix littéraire. Et on va donc parler de vous et de votre livre. Premièrement, quand avez-vous commencé à écrire ?
Alors j'ai commencé à écrire pour publier en 2017, enfin un petit peu avant évidemment, hein, mais bon, j'ai souvent écrit dans mon métier, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, et puis j'ai toujours aimé écrire étant jeune, mais bon, pour la publication c'est plutôt après 2015 que l'idée m'est venue de publier.
Et donc, quand vous étiez jeune, quel genre de livres lisiez-vous ?
Alors, quand j'étais jeune, je lisais évidemment les livres qui étaient dans les programmes scolaires, un petit peu comme tout le monde, mais j'aimais particulièrement les livres d'aventure. Donc, c'est d'ailleurs, je ne veux pas anticiper sur une des questions de tout à l'heure, mais c'est des choses qui seraient peut-être à conseiller à des jeunes. J'aimais bien les livres d'aventure, comme les Jules Verne, ou les livres de Maurice Leblanc, par exemple, qui sont des choses assez faciles à lire, entraînantes.
Et quel est votre parcours professionnel ?
Alors mon parcours professionnel est un parcours d'enseignant. Hein. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé par être instituteur public dans la Nièvre. Et puis, comme j'aimais particulièrement tout ce qui touche la littérature, je me suis inscrit à l'université, à la faculté des lettres de Dijon, hein, pour suivre des cours de lettres pour préparer licence, maîtrise, etc. Et puis tout naturellement, après, j'ai passé les concours pour devenir professeur de lettres modernes. Hein, donc j'ai terminé ma carrière au lycée Alain Colas en 2019.
Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus retraité de l'éducation nationale ou écrivain ?
Comme je regarde plutôt vers l'avenir, je me sens plutôt auteur. Retraité, je le suis évidemment, hein, c'est ce qui me permet aussi de gagner ma vie. Mais je me sens plutôt, j'ai plutôt tourné une page, je dirais, pour rester dans le registre, dans la métaphore livresque. Hein, j'ai tourné une page et je suis plutôt tourné vers autre chose maintenant.
Mais du coup, on entend souvent que les jeunes ne lisent pas beaucoup. Du coup, quel livre vous leur conseillerez pour commencer à lire ?
Écoutez, par mon expérience, je vous l'ai dit, je pense tout à l'heure, hein, je pense que les jeunes lisent. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, il y a des jeunes qui ne sont pas lecteurs. Je pense que ça viendra, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui lisent. Alors, c'est peut-être pas des choses très académiques, des choses très classiques, mais ils lisent. Hein, moi, j'en suis persuadé. Il y a même des bons lecteurs, hein, chez les jeunes gens. Je leur conseillerais, s'ils sont pas trop lecteurs, de commencer par des choses comme celles que je vous ai décrites tout à l'heure. Peut-être des livres de Jules Verne, peut-être du Maurice Leblanc, des Arsène Lupin, hein, c'est des choses qui en plus qui ont été transposées au cinéma, donc c'est des choses qui peuvent vous parler, enfin qui peuvent parler aux jeunes qui ne seraient pas lecteurs.
Et on va commencer tout doucement à évoquer donc votre livre Mémoire morte. Donc c'est un polar, c'est le genre de livre polar. Et pour vous, qu'est-ce qu'un bon polar ?
Un bon polar. Pour moi, ça dépend si c'est un polar que j'ai envie de lire ou que j'ai envie d'écrire, mais pour moi, un bon polar, c'est un polar qui va au-delà d'une simple histoire policière avec un crime, une enquête, un policier. J'aime bien qu'un polar apporte autre chose. Pourquoi pas un petit peu de culture ? C'est ce que j'ai essayé de faire dans mes deux derniers polars. Pourquoi pas un ensemble de réflexions ? Par exemple, dans Mémoire morte, j'ai essayé de réfléchir et de faire réfléchir sur la mémoire, la culpabilité, le sentiment de culpabilité, l'honnêteté intellectuelle, l'humanisme. Voilà, pour moi, un bon polar, ce serait quelque chose qui va au-delà d'une simple histoire.
Oui, parce que je voyais, vous disiez, je veux écrire des livres à la fois divertissants et culturellement enrichissants. Et est-ce que c'est ce genre de livre-là aussi que vous aimez lire ?
Oui. Par exemple, j'aime beaucoup les romans historiques parce que les romans historiques, si je prends les romans de Nicolas Le Floch, hein, toute cette saga qui a été faite, par exemple, par Jean-François Parot, hein, avec le personnage, l'enquêteur, pendant la monarchie, hein, puisqu'il commence ses enquêtes, je crois, sous Louis XV, et après on le voit encore enquêteur à la Révolution, hein, donc c'est un personnage. On apprend beaucoup de choses. D'ailleurs, l'auteur a fait énormément de recherches pour ses romans, et j'aime bien effectivement qu'un roman m'apporte un petit peu autre chose qu'une simple histoire banale. Traditionnel.
Et donc, est-ce qu'il y a un livre que vous auriez aimé écrire autre que ceux que vous avez déjà ou que vous comptez faire ?
Là, c'est un petit peu une question piège, hein. Je m'y attendais pas à celle-là. Oui, non, des livres que j'aurais aimé écrire, c'est difficile à dire comme ça. Allez, la comédie humaine, tout Balzac. J'aurais aimé écrire tout Balzac. J'aime particulièrement ces auteurs du 19e parce qu'ils sont inscrits, ils arrivent à la fois à faire de la fiction et puis à porter sur la société de leur temps un regard fin, ils arrivent à analyser ce qui se passe dans leur société tout en nous apportant une histoire.
Donc, Mémoire morte participe au prix Lyon Club. Avez-vous déjà eu des prix pour vos livres ?
Non, je n'ai jamais concouru pour des prix et pour l'instant je n'ai encore aucun prix. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, le simple fait de participer, c'est déjà un plus, hein, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que la preuve, ça donne lieu à des rencontres, ça donne lieu à des interviews, donc ça c'est un des aspects très intéressants de l'écriture en fait.
Donc, justement, pour un écrivain, c'est quoi l'intérêt de recevoir un prix ?
Oh, j'imagine que si, on conçoit bien l'intérêt. Si on a un prix, je pense que le livre est un peu connu, donc il est mis en valeur chez les libraires, et peut-être que les ventes augmentent un petit peu. Bon, moi, c'est pas trop, je vous l'ai dit, hein, moi, j'écris un peu par plaisir, et c'est plus un loisir qu'autre chose. Donc, c'est pas négligeable. Effectivement, je pense que ça fait connaître un livre et un auteur, oui. C'est sûr.
Justement, c'est dans ce cadre-là, du coup, qu'on vous accueille aujourd'hui à Raoul Follereau et à Bac FM. Et tout à l'heure, vous avez pu échanger avec des élèves de seconde. Est-ce que vous, quand vous étiez enseignant, vous avez déjà reçu des élèves, des auteurs, je veux dire
Non, je vous l'ai dit, hein, ça s'est pas produit, non, ça s'est pas trouvé. Souvent, la preuve, je suis ici parce qu'il y a un concours à la clé, hein, il y a une occasion en fait, hein, c'est très souvent, il y a un projet qui se fait dans un lycée, et ce projet fait que on invite un auteur, ou on invite un peintre, donc effectivement, ça s'est pas trouvé, non, pour moi en tout cas.
Mais vous auriez aimé le faire, enfin vous regrettez
ou... Oh bah oui, j'aurais bien aimé. Il y a des auteurs contemporains que j'aime beaucoup. Je dirais Patrick Modiano, Amélie Nothomb, Tahar Ben Jelloun. Il y a des auteurs que j'aime bien et que effectivement j'aurais bien aimé rencontrer et mettre en présence d'élèves. Bon, ça s'est pas fait. Je le regrette un petit peu effectivement, mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. Hein.
Et est-ce que dans tous les livres qui concourent au prix littéraire où vous participez là aujourd'hui, est-ce que vous avez lu les autres livres qui concourent ?
Alors oui, j'ai lu. Alors j'avais lu déjà d'avance les ouvrages. J'ai lu plusieurs ouvrages de Laurent Rivière, hein, parce qu'il en a écrit plusieurs. Un Morvan de chien, par exemple. Je ne sais même pas si c'est un ouvrage qu'on trouve toujours, mais j'ai lu donc le dernier, là, l'avant-dernier, celui qu'il a présenté au concours. Amélie Blanc, je ne la connaissais pas, donc j'ai acheté son livre et je l'ai lu aussi. Oui, ça me paraissait intéressant de découvrir. Ça fait partie de ma, c'est ma manière d'être lecteur. Je vais un peu à la découverte, en fonction des événements qui se produisent.
Et donc, revenons-en plus à votre livre à vous, Mémoire morte. Pour écrire ce livre, quelle a été votre méthode d'écriture ? Est-ce que vous aviez déjà créé les personnages avant ou est-ce que ça vous est venu au fil de l'écriture ?
Alors, pour Mémoire morte, j'avais l'idée d'un policier amnésique. Ça, c'est certain. L'idée m'était venue. Alors, Dieu sait comment, hein, Dieu seul sait comment, peut-être en regardant une fiction télévisée, peut-être en lisant quelque chose. Bref, un jour cette idée m'est venue, elle s'est progressivement incrustée, d'avoir un policier amnésique qui peut-être s'accuserait de quelque chose ou aurait des doutes sur son innocence. Ensuite, une fois que l'idée s'est imposée à moi, j'ai fait un plan. Un plan en 4-5 points, hein, le policier prend conscience de quelque chose, il découvre un dossier, et je savais les différentes étapes du livre avant d'écrire.
On continue de parler ensemble de Mémoire morte dans un instant, mais avant ça, une courte pause musicale avec « J'ai embrassé un flic » de Renaud.
Nous étions des millions entre république et nation, protestants et catholiques, musulmans, juifs et laïcs, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics, solidaires avec ceux de Charlie. Et puis j'ai vu défiler quelques bandits notoires, présidents, sous-ministres et petits rois sans gloire. Et j'ai vu le long du trottoir un flic qui avait l'air sympathique. Alors je l'ai approché et j'ai embrassé un flic. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de trique. J'aurais pas cru, il y a 30 ans, qu'au lieu de leur balancer des pavés à tour de bras, j'en serrerais un contre moi. Car je me suis approché. Oui, je me suis approché. Et j'ai embrassé un flic. Vers la nation fraternelle et pacifique, sous le regard bienveillant de quelques milliers de flics. Et les snipers sur les toits nous faisaient avec leurs bras de grands signes d'amitié et de solidarité. Alors pour les remercier et pour la première fois de ma vie d'anarchiste, je suis allé embrasser un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Oui, je me suis approché et j'ai embrassé un flic. Et j'ai embrassé un flic.
De retour sur Bac FM, toujours avec Patrick Guichet, moi Lydie et les deux Antoine, pour parler avec lui de son livre Mémoire morte qui concourt au prix littéraire. Donc Patrick Guichet, les personnages du livre, surtout Bastani, sont-ils inspirés de personnes réelles ou sont-elles totalement imaginées ?
Ce sont des personnages totalement imaginaires, hein, comme tous ceux que je conçois pour mes romans, hein, ce sont des personnages imaginaires. Alors ils sont probablement issus de personnes dont j'ai pris des aspects, c'est fort possible, hein. Mais en tout cas, voilà, je n'ai personne de particulier en tête quand je crée un personnage, et en particulier pas celui-ci.
Donc, dans votre livre, vous évoquez beaucoup la police, son fonctionnement, ses services et son langage. Comment vous renseignez-vous ?
Bah, je fais quelques recherches. Hein, je cherche des choses sur Internet, je cherche des choses dans des livres. Éventuellement, j'ai connaissance de quelques personnes qui peuvent me renseigner, hein, parce qu'ils ont des proches policiers, voilà. Mais j'essaie de trouver des éléments réalistes, des éléments vraisemblables pour donner à mes romans un côté réaliste, voilà, un côté réel. Donc, si je ne trouve pas quelque chose, je vais approfondir les recherches. Éventuellement, je demanderai à des professionnels. Mais je veux rester dans quelque chose de vraisemblable.
Et donc, j'ai la même question pour l'amnésie, qui est un sujet assez complexe. Qui avez-vous lu pour vous renseigner ?
Alors, sur l'amnésie, j'ai lu des choses. Hein, sur la mémoire, j'ai lu des choses. J'ai lu des ouvrages. Hein, j'ai lu pas mal de choses quand je faisais mes études sur la théorie des rêves, par exemple. Hein, quand on fait des études de lettres, on s'intéresse à ces questions-là, le surréalisme, la théorie des rêves. Et j'avais aussi, quand j'étais à l'université, j'avais aussi fait... Il y avait ce qu'on appelait à l'époque des UV, c'est-à-dire des options. J'avais pris psychologie en option. Et du coup, je m'étais beaucoup intéressé à ces questions-là. Donc j'ai conservé des cours, j'ai conservé des ouvrages, hein, que j'ai lus et que j'ai repris éventuellement pour me remettre un petit peu à niveau sur ces questions-là.
Et est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes atteintes d'amnésie ?
À ma connaissance, non. Ou alors, je m'en suis pas rendu compte. Mais non, non. A priori, non. C'est pas ce qui a constitué l'inspiration. Non, ça c'est totalement imaginaire et c'est des choses auxquelles je m'intéresse intellectuellement, je dirais. Mais non, j'ai pas d'expérience personnelle là-dessus.
Dans votre livre, vous employez beaucoup d'argot, surtout policier. Est-ce que c'est un langage qui vous est familier ou est-ce que vous l'avez adopté spécialement pour le livre ?
Pas du tout. L'argot m'intéresse en soi. Donc, je me suis aussi intéressé à l'argot du 19e siècle pour un précédent livre que j'ai voulu émailler de mots qui, encore une fois, donne un côté vraisemblable à mon histoire. Donc là, je me suis renseigné pour l'argot aussi policier. Hein, j'ai lu des choses, j'ai consulté des sites internet. Et pour l'argot du 19e, j'avais acheté un livre avec une sorte de dictionnaire de l'argot. Hein, donc non, je me suis renseigné à chaque fois. Hein, ça m'est pas familier. Hein, l'argot est quelque chose de difficile. L'argot parisien, c'est une langue à part. Hein, il m'est arrivé de lire des choses que j'avais du mal à comprendre chez les auteurs du 19e. Qui voulait, par exemple, les Mystères de Paris. Si vous lisez les Mystères de Paris, il y a des choses complètement difficiles. Si vous lisez les Mémoires de Vidocq, par exemple, au 19e, on tombe sur des pages qui sont très difficiles parce qu'il y a de l'argot. Donc c'est quand même une langue à part, et là, il faut se renseigner, quoi. C'est ce que j'ai fait.
Et dans le roman, on remarque qu'à chaque chapitre, on retrouve une référence à la mythologie grecque. Est-ce que c'est une de vos autres passions, ou est-ce que vous y êtes-vous intéressé uniquement pour cet ouvrage ?
Disons qu'en tant que professeur de lettres, je me suis toujours un peu intéressé à la mythologie grecque. Hein. La mythologie grecque, c'est le fondement un peu de notre culture. Hein. Vous en retrouvez partout, y compris dans les dessins animés pour enfants. Hein. La mythologie grecque imprègne un peu tout. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours un peu intéressé, la mythologie grecque. Ce qui ne m'empêche pas de devoir rechercher certaines choses pour être sûr. Hein.
Votre livre fait partie de la collection Rouge. Des éditions Execo, pardon. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette collection ?
Alors, les éditions Execo, déjà, c'est un petit éditeur vosgien, enfin petit, qui a quand même pas mal d'auteurs et pas mal d'ouvrages maintenant à son actif. C'est un éditeur que je trouve, moi, intéressant. C'est un éditeur militant. Hein. C'est un éditeur qui cherche à calculer le prix juste pour les livres, qui édite tous nos livres aussi en version numérique pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est un livre qui a plusieurs collections. Alors, par exemple, la collection Hortense et la collection Histoire. Hein, c'est le premier livre que j'ai publié chez eux. C'était un livre dans cette collection. Et la collection Rouge, c'est la collection des romans policiers. Voilà. Donc oui, c'est un éditeur intéressant avec plusieurs collections à son actif. Allez voir le catalogue. Hein, il y a beaucoup de choses dessus. Beaucoup, beaucoup.
Et quelle place prend la maison d'édition dans la création d'un livre, par exemple sur le titre ou la première de couverture ?
L'éditeur a son mot à dire. L'éditeur est intéressé. L'éditeur, lui aussi, a intérêt à ce que votre livre soit connu, soit vendu. Donc, l'éditeur a tout intérêt à ce que le livre soit visible, on va dire. Et vous l'avez bien compris, la première de couverture, c'est quelque chose de très important parce que c'est le premier regard que le lecteur peut avoir, c'est la première de couverture. Donc, l'éditeur va chercher à trouver au mieux. C'est un dialogue avec l'éditeur pour trouver l'image de la première de couverture et même le titre parfois. Et les éditeurs connaissent un peu les attentes du public. Donc ça peut être intéressant aussi de suivre les indications de l'éditeur parce que il connaît les attentes du public, il connaît le marché aussi de la librairie. Donc ça peut, voilà, ça se fait un petit peu en négociation, surtout pour la couverture.
Et est-ce que vous avez uniquement publié des livres pour Execo, vous êtes en contact avec d'autres maisons d'édition ?
J'avais publié des livres avant aux éditions du Net, hein, donc un éditeur tout passe par Internet. Donc c'est un éditeur qui, d'une certaine manière, fonctionne un peu comme de l'auto-édition, mais bon, c'est quand même un petit éditeur. Pour l'instant, j'ai trois livres aux éditions du Net aussi, donc. Quand ils se vendent, j'en recommande. Quand j'ai besoin de renseignements, je les contacte. Donc bon, oui, je suis encore en contact. Mais disons que je suis plus maintenant tourné vers le second éditeur.
Et alors, une question un peu plus personnelle. Est-ce que, comme Bastani dans le livre, vous notez vos rêves ?
Pas du tout. Bon, c'est pas un grand secret. Je n'ai pas des rêves très développés et très très riches, très intéressants. Donc, si j'écrivais mes rêves, je pense que ça ferait des tout petits textes sans intérêt. Non, non, absolument pas. Hein. Non, non.
Et donc, pour l'avenir, est-ce que vous comptez uniquement écrire des polars ou est-ce qu'il y aura d'autres styles de livres ?
Bon, là, je suis en train de travailler sur un recueil de nouvelles. Bon, il y a des intrigues policières, il y a des intrigues historiques. Bon, c'est pas encore bien défini. J'ai une idée aussi de conte derrière, mais bon, ça, je peux pas trop vous en parler parce que c'est vraiment très embryonnaire dans mon esprit. Vous n'aurez qu'à suivre ce que je fais sur Facebook, comme ça vous verrez bien.
Donc avez-vous d'autres projets en cours en dehors du livre de nouvelles ?
Déjà je vais essayer de finir celui-ci, puis après oui, j'ai aussi une idée d'un roman derrière. Je vous ai dit, il y a un conte, mais bon, c'est très embryonnaire, j'ai aussi une idée de roman. Mais là, je peux pas trop en dire non plus, parce que ça fait référence à quelque chose qui a été transposé au cinéma récemment, donc bon, je peux pas en dire plus pour l'instant.
Et pour finir, donc, est-ce que vous avez un livre de chevet ?
Alors, en ce moment, j'ai un livre de chevet, j'ai toujours un livre de chevet, hein. Donc là, en ce moment, je suis en train de lire un livre, c'est La philosophie selon Arsène Lupin, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a écrit, il s'est penché sur le personnage d'Arsène Lupin, et il a essayé de voir, derrière le personnage d'Arsène Lupin, à quelles idées philosophiques ça faisait référence. Donc c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une étude du personnage d'Arsène Lupin, revue et corrigée par un philosophe.
Merci beaucoup Patrick Guichet, cette discussion était vraiment intéressante. Chers auditeurs, si vous nous avez rejoints en cours d'émission, sachez que vous pourrez retrouver celle-ci dans son entièreté en podcast sur le site de Bac FM dans la rubrique Délivrez-nous.
On se quitte avec Bigflo et Oli, Sacré Bordel, un morceau tiré de leur prochain album qui sort le 24 juin.
En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité et pour vos questions pertinentes. Bravo pour vos questions pertinentes.
Et merci pour vos réponses.
Merci à vous.
De rien.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau ? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos ? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie ? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si en douter devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants ? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous allez pas me manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche, il y a des Français. J'aime la France comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure ? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère. Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses, on fait connaissance, mais combien se connaissent ? Faut qu'on progresse pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venait la guerre ? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol, est-ce que c'est grave ? Et il écrit « Vive la France » avec une faute d'orthographe.
Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé ? Quand je sais pas vraiment quoi penser. Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ.
Et putain ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales, tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical, tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute, on rejette la faute sur l'autre, mais les autres c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle, le pays de Jeanne d'Arc ou de Jamel. Paraît qu'être aigri c'est notre fierté, qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, il y a les Gaulois, il y a les chevaliers. Mais dans la cuisine, il y a ma grand-mère et ses tatouages berbères effacés. Des fois je me dis, viens je me casse, je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle ma France et son terroir, même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire, briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny, écouter les conseils des vieux, la Bretagne même s'il pleut, prendre plein de médicaments,
l'aspirine et le doliprane,
Omar Sy et Zida,
dire que c'était mieux avant, la vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel.
L'heure de l'apéro,
pas assumer la gueule de bois,
râler quand il fait trop chaud, et
râler quand il fait trop froid.
La France je l'aime, je suis encore d'elle, français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème.
Sacré mélange, sacré cocktail, certains me disent qu'il est mortel,
mais malgré tous les problèmes,
je t'emmène
dans mon sacré bordel.